Attention, certains propos peuvent heurter les oreilles sensibles.
Sur les 3000 jumeaux qui ont servi de cobayes humains au docteur Mengele dans les camps de la mort nazis, 183 sont encore en vie aujourd'hui. Les expériences médicales de celui qu'on a surnommé l'ange de la mort avaient essentiellement pour but d'améliorer la qualité de la race.
Archives France Inter, 13 octobre 1984.
La technique était simple, injecter à l'un des jumeaux des germes mortels, suivre l'évolution de la maladie jusqu'à son issue fatale et tuer ensuite l'autre jumeau pour comparer les tissus sur la table de dissection. Outre ces expériences, le docteur Mengele est également responsable de la mort d'environ 1 million de personnes envoyées à la chambre à gaz sur ses indications parce qu'elles n'étaient pas suffisamment en bonne santé pour lui servir de cobaye.
Joseph Mengele, l'ange de la mort. Épisode 1, des cobayes humains.
Le docteur Joseph Mengele, nazi dévoué de la Waffen-SS, jubile. Il prend enfin ses quartiers au camp d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich. Ici, on meurt systématiquement, on extermine, à grande échelle, abysse que même Dieu a déserté. Mais l'ange de la mort, lui, comme l'ont appelé les déportés, va s'en donner à cœur joie, se laissant aller à l'inouï et à l'insensé. À partir du mois de mai 1944, Léa et Judith, jumelles originaires de Transylvanie, vont en être les victimes. Elles n'ont alors que 7 ans. Tel Aviv, 19 novembre 2022. Installées côte à côte dans un canapé, ces deux survivantes de 85 ans évoquent l'indicible.
Nous avons survécu grâce à notre mère, car elle était avec nous à Auschwitz. Elle nous donnait sa part de nourriture, elle nous lavait, nous peignait, elle nous faisait belle pour la sélection par Mengele, afin qu'il ne nous choisisse pas pour les expériences mortelles.
Nous sommes descendus du wagon. Les gens étaient sélectionnés pour vivre ou mourir.
Dans ce film documentaire de 2006 intitulé « Forgiving Dr. Mengele », Eva Kaur se souvient. Son histoire commence en 1934 avec Myriam, sa sœur jumelle, dans un petit village de Roumanie. 10 ans plus tard, c'est sur la rampe de sélection d'Auschwitz qu'elle se poursuit.
Les gens pleuraient, criaient, se bousculaient, des chiens aboyaient. Et moi, je tournais en rond, essayant de comprendre où j'étais. Je n'avais jamais vu d'endroit pareil. Un nazi courait au milieu de ce quai de sélection, criant en allemand « Jumeaux, jumeaux ». Il nous a remarqués et nous a demandé si nous étions jumelles. Notre mère lui a demandé « Est-ce que c'est bien ?» Le nazi a répondu « Oui ». Ma mère a dit « Oui ». Et à ce moment, un autre nazi est arrivé. Il a poussé notre mère vers la droite. Nous avons été poussés vers la gauche. Nous étions tout en larmes. Je ne lui ai pas dit au revoir, mais je n'ai pas compris que ce serait la dernière fois que nous la verrions. Et tout cela avait pris 30 minutes depuis notre sortie du wagon. Toute ma famille a été éloignée. Il ne restait plus que Myriam et moi, pleurant main dans la main. Nous étions des jumelles Mengele. Nous avons compris plus tard ce que cela signifiait.
Mengele would count us every morning.
Mengele venait nous voir tous les matins et il faisait le compte de ses cobayes. J'ai été utilisée pour deux types d'expériences. Lundi, mercredi et vendredi, il me laissait nue dans une pièce avec ma sœur jumelle et d'autres jumeaux jusqu'à 8 heures par jour. Il mesurait chaque partie de mon corps, les comparait à ma sœur jumelle et puis les comparait à des tableaux. Les autres jours, mardi, jeudi, samedi, Ils nous emmenaient dans un laboratoire d'analyse sanguine. Ils m'attachaient les deux bras pour faire des garrots, prenaient beaucoup de sang de mon bras gauche et me faisaient au moins 5 injections dans le bras droit. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qu'ils m'injectaient. Après une de ces piqûres, je suis tombée très malade, avec beaucoup de fièvre. Mes bras et mes jambes ont enflé. J'avais de grosses douleurs. Je frémissais, comme si le soleil d'août me brûlait la peau. Et j'avais d'énormes boutons rouges qui couvraient mon corps. À la visite suivante au laboratoire, ils ne m'ont pas mis de garrot, mais ils m'ont pris la température. Et j'ai été immédiatement transportée à l'hôpital. Le lendemain matin, Mengele est arrivé avec d'autres médecins. Il ne m'a pas examinée. Il a regardé ma courbe de température et il a déclaré « Dommage, elle est si jeune. Il ne lui reste que 2 semaines à vivre. » Des 2 semaines suivantes, je n'ai qu'un seul souvenir clair. Je me revois ramper sur le sol, car je n'arrivais plus à marcher, pour aller vers un robinet à l'autre bout du baraquement, en me disant « je dois survivre ». Après 2 semaines, ma fièvre est tombée et je me suis sentie beaucoup plus forte. Cela m'a pris 3 semaines de plus pour retrouver une température normale. Quand je suis revenue, Myriam était assise sur son lit, regardant dans le vide. Je lui demandais « Que t'est-il arrivé ?» Et elle dit « Je ne peux pas en parler, je n'en parlerai pas. » Et nous n'avons plus parlé d'Auschwitz jusqu'en 1985.
Les recherches sur les jumeaux étaient faites à travers le monde et là, il avait une occasion d'en avoir à disponibilité. Il pouvait tout faire sur eux, vivants ou morts. Donc il considérait que tout ce qu'il pouvait récolter comme renseignement pouvait être utile pour une recherche qui était parfaitement vaine d'ailleurs, parce que le seul problème c'était de savoir quelle était la différence, si vous voulez, sur le plan physique, physiologique ou de comportement entre des vrais jumeaux et des faux jumeaux.
Yves Ternon, médecin et historien.
Et ben avec les jumeaux, il fait des prélèvements sans arrêt. Des prélèvements biologiques, il fait des photos, il fait des radios, parfois il fait des amputations d'un doigt, de quelque chose comme ça, pour savoir, il cherche. Et bien entendu, il n'y a rien à trouver sur le plan de l'hérédité. Il n'a rien apporté à la science.
Donc il y a eu une série d'expérimentations médicales. Certaines ont été véritablement scientifiques, mais absolument non éthiques. D'autres ont été complètement fantaisistes.
Jean-Marc Dreyfus, historien, spécialiste de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale.
C'est fait dans des circonstances atroces. C'est-à-dire des souffrances, on ne respecte pas du tout l'anesthésie. On a ce matériau humain. Et là intervient une dose de sadisme qu'on a attribuée largement à Mengele. C'est-à-dire que Mengele aurait été en plus un sadique qui non seulement voulait faire ses expérimentations qui ne servaient à rien, ce qui est le cas pour la plupart des expérimentations de Mengele, mais en plus, il avait un plaisir infligé des souffrances terribles, absolument inimaginables et complètement inutiles.
Arrivé à Auschwitz, nous avons été appelés.
Yona Lax, en 2019, archive du mémorial de la fondation Auschwitz-Birkenau.
And Mengele would come out and choose the people. He wanted for forced labor.
Et Mengele venait choisir les gens qu'il voulait pour le travail forcé et ceux à exterminer immédiatement. Cela voulait dire droite, gauche, droite, gauche.
My sister Hannah, who was
ma sœur Anna, qui avait 4 ou 5 ans de plus que nous, craignait que l'on ne passe pas cette sélection.
This selection, she feared I would not make it. I was sent to the
Elle craignait que je sois envoyée à gauche, c'est-à-dire vers le crématorium,
whereas my
Alors que ma grande sœur et ma jumelle Myriam étaient envoyées à droite. Anna, ma grande sœur, était très courageuse. Elle s'est penchée et a supplié en criant que Myriam et Yona sont jumelles et donc n'ont jamais été séparées. Elle ne savait pas qui était Mengele et quels étaient ses desseins. Quand Mengele a su que j'étais la jumelle de Myriam, il a ordonné à un officier SS de courir me récupérer et me mettre sur la rampe qui conduisait au camp. Et c'est ainsi que nous avons été réunis, Myriam et moi.
Nous étions appelés par divers médecins pour des examens divers.
Otto Klein, archive du mémorial de la Shoah, octobre 1996.
Le docteur Mengele voulait savoir, voulait connaître. C'est pas lui-même qui a fait tout. Il a regardé seulement le résultat. Et il y avait une majorité de médecins prisonniers. Examens cliniques, psychiatriques, tous les examens. C'était une préparation, certainement pour l'examen final, qui devait être après la mort. Et même avec nous dans notre camp, il y avait un fameux, mondialement connu professeur de la Tchécoslovaquie, professeur Epstein. Il était également prisonnier et lui il était un de chefs qui était nommé par Dr Mengele. Il était tellement malheureux de devoir le faire.
Eva Kor.
Quand je lui ai posé la question en 85, « Myriam, te souviens-tu quand j'ai été transportée à l'hôpital ?» Elle a dit oui. J'ai dit, « Que t'est-il arrivé à toi pendant que j'étais à l'hôpital ?» Elle a dit, « J'étais sous la supervision d'un médecin nazi 24 heures sur 24. C'était durant les mêmes 2 semaines que Mengele me donnait à vivre. Donc je lui ai redemandé, « Que s'est-il passé ?» Elle a dit qu'elle a été emmenée au laboratoire, piquée à maintes reprises, ce qui l'a rendue très malade. Des années plus tard, après s'être mariée en Israël, attendant son premier enfant, elle a développé une infection rénale réfractaire à tout antibiotique. Lors de sa deuxième grossesse, en 1963, l'infection était si sévère que les médecins israéliens poussèrent les analyses et découvrirent que les reins de Myriam n'avaient pas dépassé le stade de développement de ceux d'un enfant de 10 ans. Donc j'ai supplié Myriam de ne pas faire d'autres enfants, car chaque grossesse présentait un risque vital. Mais elle a eu un troisième enfant. Et là, ses reins se sont détériorés. Et en 1987, ils ne fonctionnaient plus. À ce moment-là, je lui ai donné mon rein gauche. J'avais 2 reins et 1 sœur. Le choix était facile. Mais l'année suivante, elle a développé des polypes cancéreux dans la vessie. Les médecins m'ont demandé de trouver nos dossiers d'Auschwitz. Nous ne les avons jamais trouvés. Nous n'avons jamais su ce qu'ils nous avaient injecté. Et Myriam est morte le 6 juin
1993. Nous n'avons pas eu de séquelles. Mais notre mère, pour sa part, devint sourde suite aux injections de Mengele, sans jamais recouvrer l'ouïe.
Yves Ternon.
Le problème de la médecine nazie, c'est qu'ils sont obsédés par l'hygiène raciale, c'est-à-dire par le fait que l'hérédité est tout, et tout est hérédité. Mais ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils ne savaient pas et ce qu'ils n'ont pas trouvé. Mais ils cherchaient.